On a ici une Gemara, traité Yoma, page 69b, qui parle des sages de la Grande Assemblée, trois siècles avant l'ère chrétienne, c'était cette époque-là. Et la Gemara dit à leur propos, « Erziru atara l'yoshna », ils ont ramené la couronne à sa place d'antan. La couronne a été enlevée et eux l'ont remise à sa place. De quoi s'agit-il ? Adirav Matana, Moshe Rabbeinu, dans la Torah, il écrit à propos de Dieu, Hakel, Hagadol, Hagibor, Vanora. Le Dieu grand, puissant et qui inspire la crainte. Est venu Irmiaou, le prophète Jérémie, et lui, dans ses prophéties, il parle de Dieu et il écrit différemment. Il dit Hakel, Hagadol, Vagibor. Le Dieu grand et puissant. Mais qui inspire la crainte, il a escamoté. Pourquoi ? Oui, la Gemara. Nochim et Karkerim Be'echalo. Jérémie, il a dit, les Goïm crient et font la fête dans le palais de Dieu. Ayenor Otav, où est la crainte qui l'inspire ? Ils n'ont pas peur de lui. Or, nous sommes des gens de vérité, dit Jérémie. Je ne vais pas raconter une histoire que je ne pense pas. Donc Dieu, il est grand. Dieu, il est puissant. Mais il n'inspire pas la crainte. Donc il a appelé juste après les deux premiers adjectifs, et non les trois. Est venu Daniel, et lui aussi a escamoté. Il a dit, Hakel Hagadol, le Dieu grand. Le Hagibor, il a aussi escamoté. En plus que celui qui inspire la crainte. Pourquoi ? Il a dit, Nochim Mishta'abdim Bebanav, Aïkvorotav. Les Goïm asservissent les enfants de Dieu, Bnei Israël, où sont les puissances de Dieu ? Moi, je suis un homme de vérité, je ne peux pas dire une chose que je ne pense pas. Genre, Dieu, il est grand, sa puissance, et encore moins la crainte qu'il inspire, je ne vois pas. Atouinhu, ils sont venus eux, donc les sages de la Grande Assemblée, ils ont dit, à plus forte raison, c'est ça sa puissance, qu'il retient son yetzer, son penchant, et donne, et patient avec les mécréants. Quelqu'un qui est fort, et quand on lui fait guili-guili, il tape, c'est pas quelqu'un de fort. Quelqu'un qui est fort, et quand on lui fait guili-guili, il peut taper, et il tape pas, c'est beaucoup plus fort. Dieu est tout puissant. Et il peut, à la seconde, éliminer tous ceux qui asservissent ses enfants. Mais il ne le fait néanmoins pas. Ça, c'est une puissance. Comment il inspire la crainte ? Comment un peuple peut-il vivre comme une brebis parmi 70 loups et survivre ? Normalement, il a dû disparaître depuis longtemps. Et il survit. C'est ça la crainte qu'il inspire. On a appelé ceux qui ont amené, de nouveau, ils ont mis la couronne de Dieu sur sa tête. Quelque part, elle m'a posé la question, comment les prophètes, ils ont osé aller contre Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a dit, Hakel, Hagadol, Hagibor, Vanora, les trois adjectifs. Comment vous permettez-vous, Irmiaou et Daniel, d'escamoter comme ça ? Réponse, ce sont des gens de vérité. Je ne peux pas mentir à propos de Dieu. Une fois que les sages de la Grande Assemblée ont expliqué que non, voici où est sa puissance, voici où est la crainte qu'il inspire. Alors tout le monde est d'accord. Ce matin est décédé Rav Selichuk, Zechat Tzadik Vekadosh Livracha. Dans tous les pays dans lesquels Am Israël ont été, il y a eu des grandes périodes de Torah. D'abord en Babylonie, après en Afrique du Nord, l'Espagne, l'Europe centrale. La France a eu aussi son époque d'or. À l'époque de Rashi, les Tosafot, 11e, 12e siècle de l'ère chrétienne. Jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas être une page de Gemara sans ses commentateurs français. Rashi et Tosafot. Mais depuis, un désert. Je dirais peut-être plus que beaucoup d'autres pays d'exil, dans lequel il y a eu des époques d'or, mais après il y a eu un déclin, mais il y a eu encore un peu de Torah. Bizarrement, la France, depuis Rachi et Tosafot, un désert. Alors il y a par-ci par-là, on a, oui, il y a 2-3 siècles, on a le Mahamar Mordechi de Carpentras, c'est un grand rabbin qu'on cite de temps en temps. Mais pas beaucoup de Torah, vraiment pas. Il y a beaucoup de juifs, c'est pas un pays vide. L'Espagne, une fois qu'il y a eu l'exclusion des juifs d'Espagne, alors il n'y a plus de juifs, terminé. Les Maran, bon, plus de judaïsme. Mais il y avait beaucoup de juifs en France. Ils n'ont pas été renvoyés, ils n'ont pas été exclus. Torah n'y avait pas. Un des plus grands rabbins du siècle dernier, enfin du siècle avant-dernier, du 19e siècle, c'était le Rav Israël Salanter. Énorme. À la fin de sa vie, il était allé habiter à Paris. On ne sait rien sur sa vie là-bas. Mais on sait qu'il a été maintenant essayé de ramener des juifs à la Torah. Et on ne connaît pas les résultats. On n'a pas vu. Il y a eu des tentatives, de grandes Torahs qui sont partis. Mais c'était beaucoup trop dur. La France, je suis désolé de vous le dire, est un pays où il y avait très, très, très peu de Torah. On fait ce qu'on veut. En tant que juif. Évidemment, quand on fait ce qu'on veut, qu'est-ce qui se passe? Alors toi, tu es juif, ton fils un peu moins, et l'artifice, il est goy. Terminé. Assimilation terrible. Troisième communauté mondiale juive, néanmoins assimilation terrible. Jusqu'au jour où Dieu a eu pitié de son peuple, la communauté française a amené le Rav Chaim Sitruk, le Rav Yosef Chaim Sitruk, de Chon Evracha. Ki mamash erzir atara le yoshna. Il a ramené la couronne à sa place. Il est le premier Rav qui a pu montrer au grand public, dans les petits publics restreints, orthodoxes, avec Leban, le Rav Chaikin, le Rav Rottenberg à Pavé, etc. Il y a eu, mais des petites communautés. On parle maintenant de la grande communauté juive française. Jusqu'au Rav Sitruk, on peut dire carrément le désert. Et le premier qui a su montrer la vraie Torah authentique au peuple et la faire aimer par le peuple, montrer l'exemple. Il a remis la couronne à sa place. Il avait pas honte de dire, on posait une question une fois, je ne sais pas, demain, cette prochaine, je dois partir, je vais demander la question au grand, à Bnei Brak. À Bnei Brak. Et Bnei Brak, c'est les fanatiques, moyenâgeux, roménistes, intolérants, juifs, orthodoxes. Ben oui, c'est les grands de la Torah. Le Rav Shach, à l'époque. Après le Rav Steinman, Abraham Kanevski, Rabbi Yosef ici à Yerushalayim, des grands noms qui étaient inconnus du public. Et comment il a fait? Comme un vrai berger d'Israël. Il a su faire aimer la Torah. Comment? Quelqu'un avec un message de Torah qui est authentique. Ok. Mais comment tu fais maintenant pour que les gens l'écoutent? Il faut que les gens aient une oreille attentive. Qu'est-ce qui a fait? Dieu l'a aidé dans cela, c'est clair. Bon, d'abord, il lui a donné un don de parole extraordinaire. Mais ce n'est pas tout. Tu as beaucoup de beaux parleurs. Des centaines de milliers de gens ont écouté ces cassettes. Ça commençait par les cours qu'il donnait à la Victoire. Des centaines, voire presque un millier de personnes allaient écouter son cours, puis après les cassettes. Il était aimé par tous. Le secret, à mon avis, il est écrit ici dans les paroles du Misat Yesharim, qui nous dit à la fin du chapitre 19, Dieu n'aime que celui qui aime Israël. Et plus quelqu'un aime Israël, plus Dieu l'aime. Rav Sitruk, Zechon Levracha, avait un amour de sa communauté. Et Chazal nous témoigne, les paroles qui sortent du cœur pénètrent le cœur. Donc quand il parlait Torah, une Torah authentique, celle des grands de la Torah, la Torah qu'on a reçue depuis Moshe Rabbeinu depuis 3500 ans, transmise de grand à Torah à grande Torah, pas des inventions, comme il y a eu beaucoup, beaucoup en France, toutes sortes de mouvements comme ça, porte ouverte pour l'assimilation. On s'appelle juif, religieux, mais c'est la voie vers la sortie. Montrer un visage, le vrai visage, beau, intelligent, sympathique, humain de la Torah d'Israël. Casser cette impression que les gens ont que Bnei Brak c'est fermé, c'est roméniste, c'est fanatique. Au contraire, c'est beau, c'est grand. Les gens le voyaient parler à la télévision, ils étaient fiers d'être juifs, des gens loin de Torah. Parce qu'il répondait bien, il parlait bien. C'était une Torah de vérité. Comment a-t-il réussi? À mon avis, il avait l'amour, un amour. Comme le Rav continue ici, ce sont les vrais bergers du peuple d'Israël. Que Dieu aime, les aime beaucoup. Qui sont prêts à se donner entièrement pour leur troupeau. Alors ces trucs, ce n'était pas des journées. Dans une journée, ils mettaient 4 journées. Avant qu'il ait eu son AVC, on a vu, ça a été publié un peu son emploi du temps. Il va à Londres, après il a une conférence à Paris, il part sur Marseille, après il va en Italie, il revient, sans cesse. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il gagnait par là? Il a fait pour l'argent, il a fait pour les honneurs, il a fait pour son Olam Haba, il a fait par amour du peuple d'Israël, qui est plus de juifs, qui reconnaissent la vérité de la Torah, plus de juifs qui aillent dans le bien, que ça aille mieux. Je suis convaincu, nous tous, on lui doit énormément. Je vous dis que depuis Rashi et Tosot, il n'y a pas eu de personne qui a fait autant pour la Torah en ce qui concerne la communauté française. Personne. Le désert. Il est venu et c'est une vraie révolution. Au début de sa carrière, il y avait où de la Torah? Ou un Beit Midrash? Allez, peut-être Aix-les-Bains, vaguement peut-être à Paris, c'est tout. C'est tout. Peut-être à Bâle, ou je sais pas, par-ci, par-là. Maintenant, il y a une grande ville sans plusieurs Beit Midrashot, sans plusieurs endroits où on lit la Torah. C'est lui qui est responsable de ça, grâce à lui. Les gens ont compris l'importance d'étude de Torah, l'importance d'être juif, authentique. Vos parents à vous, vous-même, qui n'a pas entendu ces cours-là? Et qui a fait tchouva grâce à ça, qui s'est rapproché de la Torah grâce à cela? Comment? Il était Moser et Nafsho. Vraiment, ça veut dire Moser et Nafsho, il s'est donné entièrement, donné au prix de sa santé. S'il n'y avait pas ce joug extraordinaire, tellement grand et tellement dur du public, il aurait une santé bien meilleure. Il s'est donné pour son peuple, vraiment. Et comme continue ici le Misat Yesharim, pour ces gens-là, Dieu annule les décrets mauvais. Vous comprenez le miracle que vit la communauté française aujourd'hui? Pour moi, c'est un miracle. J'ai aucun doute. Du point de vue naturel, normal, en France, tu as au moins 10 millions, et peut-être beaucoup plus, de personnes qui nous haïssent et qui veulent notre fin. Et on les côtoie tous les jours. Normalement, naturellement, ça aurait été infernal. Miraculeusement, c'est un miracle extraordinaire. On survit, et bien au Hachem, il y a bien sûr des dégâts par-ci par-là, mais c'est beaucoup, beaucoup moins que ce qu'on peut y avoir. Beaucoup moins. Grâce à quoi? Alors nous, en tant que juifs religieux, on sait très bien, grâce à Dieu. Mais pourquoi Dieu protège-t-il comme ça les Français? Quoi, ils sont sympas? Oui, ils sont sympas aussi, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus? Il n'y a aucun pays au monde, je suis du métier, je vous dis, il n'y a aucun pays au monde où il y a autant de tchouva qu'en France. Et grâce à qui? Au Rav Sitruk. On lui doit ça. Au moins ça. Notre sécurité, et c'est peu notre sécurité, parce que ça c'est le corps. On lui doit notre vie de Olam Haba. Et celle de nos enfants, arrière-petits-enfants, etc. Parce que quand tu rentres en Torah, tu fais des enfants, tu l'éduques la Torah, ils vont faire des enfants, etc. C'est des millions et des millions et des millions de juifs qui vont rester dans la Torah alors qu'ils auraient pu s'assimiler. Un homme qui s'est donné entièrement pour son peuple. Alors aujourd'hui, il nous a quittés. Nous sommes convaincus qu'une place très très belle attend dans l'âme là-bas. On lui demande de prier, de continuer à être le berger de son peuple, de prier pour la protection physique des juifs de France, pour leur tchouva surtout, que tous reviennent. Et qu'il prie Hachem que Dieu dise halte à notre exil, qu'il admette le Mashiach, le Gmara, Amen ou Amen.